Alors bonjour à tous, je me présente donc Sophie Levrard, doctorante rattachée au CIRNEF, doctorante en sciences de l'éducation rattachée au CIRNEF sous la direction de Julie Delalande. Et mon rôle aujourd'hui est de présenter Nathalie Roucou, notre première conférencière dans ces journées sur l'enfance au quotidien. Mais avant ça, j'aimerais faire un lien rapide, une continuité avec la table ronde numéro 1 à laquelle nous venons d'assister. Ce qui est marquant dans la table ronde, c'est la diversité et la richesse des définitions concernant les termes de continuité et de discontinuité. En effet, plutôt que continuité, nous avons entendu le terme de cohérence éducative, on a entendu les termes de parcours, car la continuité, du point de vue des professionnels, n'existe pas réellement, mais la cohérence, elle existe. Et elle passe par des formes variées telles que la collaboration, les liens interprofessionnels. On a entendu également la connaissance, la confiance, l'accompagnement, la transmission des données, les transitions, etc. Il y a eu une richesse au niveau des termes assez importante. Et quant au terme de discontinuité, il est souvent remplacé par celui de rupture. Donc on a le sentiment qu'à chaque passage, il y a rupture, qu'elle soit symbolique ou réelle, soudaine ou progressive, souhaitée ou imposée. Les professionnels s'évertuent à construire un maillage, un tissage de liens entre ces différents temps et ces différents lieux institutionnels pour justement faciliter donc les parcours, pour limiter ou alléger le poids des ruptures. Tous ces interstices, ces passages, on a entendu également les ponts, les temps et les espaces intermédiaires sont autant de tiers-temps et de tiers-lieux par lesquels on fait passer les informations, mais aussi par lesquels passent les jeunes, les enfants, les adultes, parents ou professionnels. On pourrait donc définir les tiers-temps et tiers-lieux comme des espaces-temps hybrides, dont la fonction première n'est pas celle attendue par les institutions. Cécile Leroux a parlé d'errance institutionnelle. Ce sont des sas de décompression entre des temps et des espaces plus contraignants car institutionnels. Et finalement, se pose la question de savoir si cette tentative de lissage éducatif est indispensable, comme l'a mentionné Étienne Sanson, et si les enfants, les jeunes, finalement, ne réclament pas une liberté de composer avec ces tiers-temps et ces tiers-lieux. Ces passages par des espaces-temps intermédiaires, ces parenthèses, ne sont-ils pas souhaitables, voulu, recherché par les enfants et les jeunes. Donc en effet, les enfants au centre du projet, au milieu de ce dispositif éducatif, cherchent aussi des espaces-temps libératoires, comme vous les appelez, Nathalie Roucou, c'est-à-dire libérés des contraintes inhérentes aux finalités éducatives de chacune des institutions dont ils dépendent. Et là, je reprends encore vos termes. Et donc je vous présente, c'est le temps. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris 13 depuis 1997 au sein du laboratoire Experis. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et vous vous intéressez donc dans le champ de la sociologie de l'enfance à la question du loisir et du jeu, et en particulier dans leur tension avec l'institution scolaire et son projet éducatif. Le titre de votre conférence, « Loisir et éducation informelle pour une discontinuité éducative », attise notre curiosité, a attiré la mienne en tout cas. En effet, encouragez-vous la discontinuité éducative, ou du moins faut-il s'autoriser à penser la discontinuité, comme vous dites, dans ce qu'elle aurait de vertueux pour les enfants, parce qu'elle leur permettrait d'aborder, de découvrir des formes nouvelles d'éducation, des manières d'apprendre qui sont au moins aussi nombreuses qu'il y a d'enfants, et qui sont à la marge de ce que propose l'école. Donc une éducation informelle qui casse les normes de l'école, qui n'a pas d'intention éducative et qui pour autant est aussi riche. Votre constat est qu'il existe encore trop peu en France de structures d'accueil qui permettent le loisir tel que vous le définissez, à savoir le loisir est frivolité, second degré, il est décision du sujet, mais tout ça je vous laisse le soin éventuellement d'y revenir dans votre conférence. Donc vous aussi, vous parlez de rupture finalement, ce qui vient boucler la boucle un petit peu, si on peut la boucler, puisque vous aussi, pour vous aussi, pardon, la discontinuité évoque une rupture nécessaire entre l'institution scolaire et les injonctions éducatives qu'elle implique, et les structures de loisirs qui ne devraient finalement pas se définir en comparaison ou en opposition avec l'école, mais qui devraient se définir par elles-mêmes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles proposent comme activité de loisir. Donc le loisir est souvent perçu comme un espace-temps hors scolaire, défini en comparaison avec le temps scolaire, car le loisir rentre en compétition avec l'école pour les enfants, comme il rentre en compétition avec le travail pour les adultes. Et donc vos recherches proposent d'analyser ces espaces-temps dédiés au loisir par le prisme des enfants et non pas celui des adultes, car les enfants, dans les principes majeurs de la sociologie de l'enfance, comme vous le dites, sont des acteurs sociaux dans lesquels il faut placer notre confiance pour qu'ils tissent eux-mêmes les liens qui leur sont nécessaires pour construire, et là encore, je vous cite, leur itinéraire de jeu et plus largement de vie. Je vous laisse la parole.
Merci. Je ne suis pas sûre que j'ai encore quelque chose à dire. Donc, merci de cette introduction qui dit à peu près tout. Donc, peut-être je vais le redire de façon plus détaillée, en essayant d'expliciter toutes ces propositions, hein, qui ne sont que des propositions, des réflexions, qui sont effectivement basées sur des analyses, qui sont elles-mêmes basées quand même sur des recherches. Donc, ce ne sont pas des simples élucubrations personnelles. Mais en même temps, je pense que, de fait, il y a toujours quand même quelque chose dans nos réflexions qui touche précisément à des façons de penser qui sont propres, hein, on va dire. Donc, une petite précision avant d'entamer, pour dire que par rapport à ce qui a été discuté dans la table ronde précédemment, vous verrez que je fais un peu un pas de côté, donc je complète un petit peu le panorama et les réflexions qui ont été menées ce matin, parce que je vais me focaliser sur ces institutions hors scolaires, donc ce qu'il se passe hors scolaire et hors famille, j'ai envie de dire, donc ce qu'on propose aux enfants quand ils ne sont pas à l'école et quand ils ne sont pas dans la famille, je vais dire ça comme ça pour le dire très rapidement, et donc la façon... Oui, oui, dont on utilise, dont on remplit, donc ce qu'on propose aux enfants pour remplir ce qu'on appelle leur temps libre. Je n'aborderai pas la question de cette façon-là aujourd'hui, mais le libre, il faut le mettre entre 50 guillemets, quand on regarde bien les choses et les réalités qui sont proposées par notre société. Et donc, petit pas de côté aussi par rapport à ce qui a été présenté avant, c'est... dans la grosse majorité des propositions que vous avez faites ce matin par les professionnels qui sont engagés, en fait, dans des domaines qui sont pas, on va dire, qui touchent pas complètement l'enfant ordinaire, j'ai envie de dire. Hein. On est sur des enfants qui sont dans des contextes particuliers, des situations sociales particulières, et c'est pas de cela dont je veux parler. Donc, ce qui veut dire que mon propos peut des fois être désadapté, on va dire, par rapport à certains publics, dont les publics dont on a parlé ce matin. Peut-être qu'après, on pourra justement avoir un échange qui permettra de montrer s'il peut y avoir, en fait, quel lien on peut faire entre ces deux... De façon d'analyser la question de la continuité. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer comme cheminement de mon intervention ? Donc, là aussi, c'est un cheminement. Un premier point pour essayer de réfléchir à comment on peut penser cette continuité. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein, donc, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de construction de la continuité qui serait préétablie. Donc, qu'est-ce que moi, je propose sur cette question de continuité ? Après, j'essaierai de vous montrer, en fait, quel problème soulève cette continuité et de vous montrer que, d'une certaine façon, ces problèmes peuvent suggérer que, peut-être, il est intéressant de penser aussi la discontinuité et, donc, en venir au fait de réfléchir à comment penser cette discontinuité ? Et là, je vous proposerai un peu deux approches. Une approche un petit peu radicale, qui est un peu provocatrice en général. On va voir pourquoi, parce qu'en fait, elle propose une vraie rupture avec la notion d'éducation, en passant par le loisir.
Une seconde approche qui est plus diplomatique, on va dire plus consensuelle, qui apparaît en fait souvent plus recevable et qui va passer par la question de l'informel. Et pour finir un peu sur, effectivement, quelle potentialité peut avoir la notion d'éducation informelle telle qu'on peut la penser. Alors, continuité de quoi ? Hein ? Il me semble que c'est quelque chose qui est important à réfléchir. Et on voit bien comment, quand chacun d'entre nous commence à réfléchir à cette continuité, on ne parle pas forcément de la même continuité ou de la continuité de la même chose. Hein. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, on a entendu parler de continuité de parcours, continuité de vie de l'individu. Vous allez voir que moi, je suis encore en amont de ça et plutôt sur une idée que... il faudrait penser éventuellement des continuités de vie qui tiennent compte des personnalités, qui tiennent compte des goûts, des sensibilités strictement personnelles de chaque individu et en particulier des enfants. Donc cette question du fil conducteur de la continuité, on va dire, je tiens quel fil quand je parle de continuité, hein, elle est importante. Et dans mon propos... En fait, je vais essayer d'aller chercher la continuité éducative en reprenant un certain nombre de recherches qui ont été faites sur ces institutions, ces accueils, ces temps. Alors, le problème, c'est qu'on peut mettre plusieurs mots, hein, ou ces pratiques hors scolaires. Et ces recherches montrent qu'il y a une très forte continuité avec l'école, avec un grand E, hein, donc toute l'institution scolaire, et plus précisément avec ce qu'on appelle la forme scolaire, qui devient en fait une sorte de modèle, on pourrait dire, des pratiques hors scolaires, des institutions hors scolaires. Donc c'est des recherches qui ne sont pas nouvelles, puisque Jean Housset, qui fait partie de l'Université de Rouen, qui est donc connu par un certain nombre de collègues peut-être ici, travaille depuis 20 ans au moins sur ces questions-là, avec les analyses qu'il a faites sur les pratiques d'accueil en centre de loisirs et en colonies de vacances. J'ai moi-même participé à une recherche avec un collègue beaucoup plus récemment sur l'ensemble des structures qui accueillent les enfants hors scolaire en essayant de faire une enquête par monographie dans des communes où on a interrogé l'ensemble des accueils, qu'ils soient sportifs, culturels, en passant par les mêmes centres de loisirs et en allant jusqu'aux maisons de quartier, clubs informatiques, etc., etc. Donc un panorama plus large de structures. J'ajoute à ces recherches une recherche qui va bientôt sortir, puisque nous sommes sur une finalisation de doctorat de Baptiste Bespatin, qui est présent dans la salle, sur une analyse de micro-pratiques, ou une micro-analyse plutôt des pratiques de jeu autour du jeu en centre de loisirs et colonies de vacances. Donc on tourne toujours autour des mêmes questions. Hein. Et... On s'aperçoit aussi que les constats sont les mêmes quand on a des analyses qui sont faites, non plus dans une approche sociologique ou anthropologique, mais dans une approche de psychosociologue qui montre que effectivement les représentations professionnelles les représentations des professionnels qui travaillent en accueil collectif de loisirs, ACL, la nouvelle terminologie hein, pour désigner l'ensemble des centres de loisirs, colonies, etc., est aussi identique. Alors, qu'est-ce que nous montrent ces recherches ? Eh bien, une véritable continuité de la forme scolaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une convergence, en fait, des accueils, des activités qu'on va proposer aux enfants, vont être toutes, quasiment toutes, on va dire. Alors, bien sûr, hein, y a des différences, mais on a une très très forte tendance à avoir des structures qui s'inspirent de la forme scolaire et de ses principes de base, que je vais essayer donc de vous reprendre un petit peu ici. Un des principes de base de cette forme scolaire, c'est ce qu'on peut appeler l'éducation verticale descendante, hein, cette idée que, d'une certaine façon, Ce sont les adultes qui éduquent les enfants, donc avec une démarche d'extériorité, on pourrait dire, d'une certaine façon, et des adultes qui, du coup, vont être toujours dans cette position dominante, où ce sont eux qui savent, ce sont eux qui organisent, ce sont eux qui contrôlent. Vous remarquerez que je n'ai pas mis dans ce sont eux la question de l'évaluation qui, elle, est quand même en général plutôt laissée du côté de l'école, mais qui des fois peut aussi se retrouver dans le hors scolaire. Donc ça a pour conséquence, et où ça s'est associé à une attention très forte et parfois une centration sur des contenus et des savoirs qu'on appelle disciplinaires, c'est-à-dire où on va d'une certaine façon coller très fortement à des apprentissages qui rejoignent le fameux socle de connaissances scolaires, hein, où on demande aux enfants d'avoir une compétence à s'exprimer, une compétence à calculer, une compétence à se repérer géographiquement, etc., etc. Et dans cette perspective-là, on s'aperçoit qu'en fait, ces institutions hors scolaires sont vraiment dans l'idée d'accompagner, parfois de suppléer, on verra, les défaillances de l'école dans ce qu'on appelle le curriculum scolaire, c'est-à-dire ses programmes scolaires, d'une certaine façon. Hein. Donc il y a une vraie proximité entre ce que propose le hors scolaire et ce que propose l'école dans les contenus de ce qu'on propose aux enfants. On retrouve aussi ce qui est caractéristique de la forme scolaire, c'est-à-dire de poser les enfants, il manque un S, excusez-moi, en position passive, hein, de recevoir, et qui dit recevoir, dit aussi d'une certaine façon accepter des propositions qu'on leur fait, qui d'une certaine façon, comme dans une très grande majorité des situations, on ne leur laisse pas le choix, ces propositions deviennent d'une certaine façon des injonctions à faire quelque chose, à faire comme ça, à suivre ce qu'on demande comme démarche, à aboutir à tel résultat, etc. Ça s'associe, ça se traduit, excusez-moi, par désorganisation du temps, hein, et des espaces qui sont vraiment des formes de cadrage ou d'encadrage, on pourrait dire, ou d'encadrement, si vous voulez. Le terme encadrement est un terme très très fort dans le domaine du hors scolaire. Hein. Donc on parle souvent d'encadrer les enfants, d'encadrer les jeunes. En l'occurrence, derrière cette notion d'encadrer les jeunes, d'encadrer les enfants, il y a encore plus précisément des choses qui encadrent, j'ai envie de dire, les corps. Donc, juste une petite image pour vous dire de quoi je veux parler, c'est si vous observez des accueils d'enfants, vous verrez que très rares sont les situations où on ne demande pas aux enfants de se ranger deux par deux en se donnant la main. C'est-à-dire que c'est même pas se mettre côte à côte, c'est même pas former un groupe cohérent qui s'étale pas sur 100 mètres pour traverser une route, c'est on reste côte à côte et en plus on se donne la main. Donc, cette forme d'encadrement des corps et des esprits, au sens très large du terme, hein, qui va être toujours, ou quasiment toujours, proposée de façon collective, c'est-à-dire tout le monde fait la même chose en même temps, ce qui est typique aussi quand même du modèle scolaire, hein, et dans lesquels, eh bien, la question des différences, des individualités, j'ai envie de dire, hein, des personnalités vont être totalement oublié, pour le dire gentiment. Hein. Donc, tout ceci reprend, hein, des formes, ce qu'on appelle la forme scolaire, et on voit qu'on retrouve tout ceci dans les propositions hors scolaires qui sont faites aux enfants. Une petite précision là-dessus pour revenir sur ce qu'aurait pu, ou ce que n'a pas proposé, on va dire, la réforme des rythmes scolaires, qui, d'une certaine façon, va renforcer, à mon avis, cette continuité. Dans ce sens qu'on a des choses très, très clairement écrites hein, dans les rapports qui ont été faits pour nos instances gouvernantes, où par exemple on va avoir une expression qui dit clairement mettre l'école au cœur des projets éducatifs locaux. Donc on voit bien comment l'école est posée, si vous voulez, comme le modèle hein, de cette question éducative. Donc ça va avoir pour conséquence que, il n'est pas possible de s'adresser à des enfants, de faire des propositions aux enfants sans que ces propositions aient un caractère, une dimension, voilà, on ne sait pas très bien, mais qu'elles touchent à l'éducation. Hein. Donc on ne peut pas penser les enfants sans penser l'éducation. Et ce texte-là, cette réforme-là, prolonge cette idée-là, hein, bien sûr. Et ce qui est un peu plus peut-être grave, me semble-t-il, c'est que toute cette réforme-là s'est faite sans, au final, réfléchir à qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'éducation. Hein. C'est quoi les contenus? C'est quoi les contours éducatifs? On éduque à quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'éducation? Sans réflexion non plus précisément sur ces formes d'éducation sur lesquelles je vais essayer de revenir. Donc, la question de l'importance de la forme scolaire, si vous voulez, elle n'a pas été réfléchie, elle n'a pas été pensée. Hein. Et sans réflexion non plus sur l'utilité de ces différentes formes, de cette dimension éducative, de ces propositions éducatives. Quand on regarde en fait ce qui s'est réalisé dans le cadre de cette réforme, eh bien, on constate assez rapidement, il y a eu un nombre de recherches assez importants qui ont été faits sur ces fameux TAP, donc temps d'activité périscolaire. On voit très bien comment ils sont largement pensés comme étant le prolongement hein, de ce que propose le temps scolaire, à la fois au niveau des thématiques. Donc certes, il va y avoir des thématiques qui vont apparaître comme jeu, par exemple, mais dans une grosse majorité des cas, il y a des thématiques qui reprennent les disciplines de l'école. Donc vous avez des tapes sur lire-écrire ou des tapes sur l'usage des mathématiques. Donc on a des choses qui sont vraiment très, très collées au système scolaire. Pas toutes, hein, je reprends, mais les thématiques sont quand même très proches des systèmes scolaires, avec parfois des objectifs qui déclinent aussi ce que propose l'école et aussi avec des modalités, des déroulements qui sont en général ceux qu'on peut retrouver dans des pratiques scolaires. Ce qui pose aussi problème, c'est qu'on a pensé l'école, l'étape, mais quelque part dans ces projets éducatifs territoriaux, la suite, si vous voulez, ou tout ce qui existait avant cette réforme et qui était adressé aux enfants dans ce temps hors scolaire, eh bien, n'a pas été non plus très clairement réfléchi. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pensé l'étape différemment du reste du temps hors scolaire? C'est pas très clair dans les textes, c'est même pas clair du tout. Et ça a eu pour conséquence, d'une certaine façon, une espèce de confusion entre TAP et pas TAP, j'ai envie de dire, qui fait que ces temps qui ne sont pas des TAP qui sont collés à l'école se rapprochent encore plus de l'école, d'une certaine façon. Hein. Donc, on a un peu l'impression que les TAP vont devenir encore plus fortement le modèle de ce qu'on doit proposer aux enfants hors scolaire, avec cette espèce j'ai envie de dire, de connivence avec l'école. Hein, c'est un peu dans ces termes-là que je dirais les choses. Une petite parenthèse aussi pour souligner le fait que ce que j'ai appelé la polarisation scolaire de ces temps hors école, de ces activités hors école, hors scolaire, est quand même largement une spécificité française. Hein, il ne faut pas oublier ça, parce que ça montre qu'il y a des tas d'autres façons de faire. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est particulièrement lisible, cette spécificité française de l'importance de l'école hein, dans la façon de penser l'éducation, quand on aborde la petite enfance, donc ce qui est proposé aux moins de 6 ans, Un des éléments fondamentaux de cette réflexion-là, elle est sur l'importance que prend l'école maternelle quand on s'adresse aux moins de 6 ans et la façon dont l'école maternelle elle-même, j'ai envie de dire, se colle, se prend pour modèle l'école, alors je me trompe toujours entre élémentaire et primaire, je suis désolée, les plus de 6 ans, on va dire. Hein. Et on voit très bien comment, si vous voulez, cette forme que peut prendre l'éducation pour les moins de 6 ans, dans des pays nordiques, voire même au Japon, qui passe quand même pour un pays assez structuré, organisé, prend des formes beaucoup plus souples que ce que peut proposer la forme scolaire telle qu'on l'a en France. Cette spécificité aussi française, elle va transparaître dans le fait que les méthodes pédagogiques dites nouvelles, qui pour certaines, je rappelle, ont presque un siècle, hein, ont beaucoup de mal à trouver une place. Alors, dans le système scolaire, j'en parle même pas, mais même dans le système hors scolaire, si vous voulez. Ces méthodes-là ne sont pas ce qui est valorisé dans le système hors scolaire, alors même qu'elles semblent proposer justement des formes éducatives qui sont un petit peu différentes. Et puis, peut-être pour revenir encore sur cette question de la réforme des temps de l'enfant, souligner qu'elle a quand même été pensée sans que jamais on ne pense à revoir le temps scolaire. Il a été question d'étaler le temps scolaire, hein, de répartir différemment sur la semaine le temps scolaire, mais l'idée même de réduire le temps scolaire n'était pas pensable, semble-t-il. Alors même que, en fait, on est un des pays de l'OCDE dans lequel le temps scolaire est un des plus importants. Je crois que sur les chiffres que j'ai relevés, il y avait 2 ou 3 pays qui étaient avec un nombre d'heures plus important. Mais les quelques données que je vous indique là montrent bien qu'on est quand même très, très en haut de la fourchette. Ce qui souligne bien, hein, quand même, cette polarisation sur l'école, si vous voulez. Pourtant, ce modèle scolaire, cette réalité scolaire et cette scolarisation, on va dire, forte, n'est pas si performante que ça. Hein. On en a chacun plein d'exemples. On a moult recherches, en particulier en sciences de l'éducation, bien sûr, qui montrent que manifestement, la forme qu'on propose ne convient pas à tous les enfants, hein, et que, en termes de réussite, pour ne pas dire échec scolaire, il y aurait largement de quoi réfléchir et peut-être repenser un certain nombre de choses. Il y a bien évidemment, de temps en temps, régulièrement, ou ici ou là, d'autres formes, hein, qui sont mises en place, des pratiques pédagogiques, ce qu'on appelle différenciées. Hein, aujourd'hui, c'est un petit peu ce terme qui est utilisé. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas aller chercher très très loin dans l'actualité pour voir comment il y a régulièrement des injonctions institutionnelles fortes qui cadre, si vous voulez, les pédagogies avec, du coup, une espèce de norme pédagogique qu'il faut que chaque enseignant applique. Hein, donc, on est quand même très pris par cette institution scolaire. Excusez-moi. On a aussi des éléments pour constater que ce que j'ai appelé les habitudes sociaux ou les compétences sociales, que peuvent acquérir les enfants dans le système scolaire semblent de moins en moins partagées, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de différences entre les enfants quand ils sortent, j'ai envie de dire, du système scolaire, donc à la fin de leur scolarité, sur ce qu'on pourrait appeler des savoir-faire, savoir-être. Hein, donc qui sortent des contenus très disciplinaires eux-mêmes. Et on voit bien que ces déséquilibre, ces différences, cette diversité d'acquisition de savoir-être, savoir-faire, elle a directement des conséquences sur les possibilités des enfants, des jeunes, de trouver une place dans la société, tout simplement, hein, de voir les acquis, les compétences qui leur permettent de discuter avec des gens, de savoir se présenter, de savoir se mettre en avant ou se mettre en retrait suivant les situations, etc. etc. Autre remarque, réflexion qu'on peut faire sur ce qu'on constate des difficultés des enfants à rentrer, accepter, on pourrait dire, cette posture d'élève, ce que le collègue tout à l'heure a évoqué en parlant de métier d'élève, hein, c'est-à-dire cette idée d'être un peu dans cette situation-là où on est en ce moment, par exemple, hein, de recevoir un discours, d'écouter, de réfléchir, etc. etc. Et il me semble que ces difficultés d'élèves, alors en particulier sans doute ces enfants élèves dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui sont du coup... Pour d'autres raisons, en fait, vont être mis en difficulté dans leur vie personnelle. On voit bien que ça, à mon avis, ça questionne ce que j'ai appelé, alors de façon un petit peu provocatrice, là aussi, hein, vous avez vu que les termes, des fois, sont un peu tendancieux, ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai envie d'appeler le management de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'enfant se rentre dans cette forme qu'on lui propose d'être, et d'être non pas enfant, mais d'être élève. Donc la notion d'élève est clairement à distinguer de la notion d'enfant. Pourquoi ? Parce que précisément cette notion d'élève, elle instaure une position passive de l'individu et une position d'exécution des tâches, des missions, des consignes qu'on lui impose, hein, d'une certaine façon. Donc, on peut penser d'une certaine façon que toutes ces difficultés appellent peut-être à penser la discontinuité, dans tous les cas autorisent peut-être à penser la discontinuité, avec cette idée que peut-être qu'en sortant de ce modèle scolaire, de cette forme scolaire, on va pouvoir faire bouger un petit peu les lignes. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un petit peu deux façons de penser la discontinuité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai appelé une façon un petit peu radicale, avec l'idée de rupture et de couper un espèce de lien, en fait, qu'on instaure de façon... relativement scolaire, entre l'enfant et l'adulte, pour peut-être penser une forme d'émancipation sociale de l'enfant, de l'enfance, telle que l'a traité donc un auteur qui s'appelle Renaud et qui a proposé un ouvrage sur la libération de l'enfant. Et cette possibilité va passer par l'introduction ou la valorisation du loisir. Une deuxième forme que j'appelle plus diplomatique, en ce sens que dans le premier cas, si vous voulez, on va laisser l'éducation de côté. Donc ça pose un vrai problème. C'est pas facilement recevable comme discours. C'est pas très politiquement correct de dire ça. Hein. Donc dans le second cas, l'idée serait de maintenir cette idée d'éducation, sauf que il s'agirait de chercher quelque chose des formes qui soient plus compatibles avec ce qu'est un enfant ou ce que pourrait être un enfant. Donc, il s'agirait de repenser, en fait, l'éducation dans ce deuxième modèle. Alors, faut pas que je traîne de trop, quand même. Donc, premier modèle, il s'agit de faire une rupture en s'appuyant sur le loisir, avec l'idée que peut-être que le loisir pourrait être une façon de couper cette ligne droite, ce continuum, si vous voulez, éducatif. Alors, on pourrait reprendre le terme de tout à l'heure de rail ou de ligne éducative sur lesquelles on met l'enfant. Hein, avec l'idée que Il y aurait des situations, des temps, des institutions éducatives, et puis tout d'un coup, paf, on coupe le cordon et on n'a plus d'éducation. Donc ça peut s'entendre en introduisant la notion du loisir, en reprenant donc la proposition en particulier de Paul Lyonnais qui propose l'idée que le loisir soit quelque chose de libératoire, c'est-à-dire quelque chose qui soit fondé sur la non-contrainte, hein, ces espaces-temps où il n'y a plus de contraintes sociales, où on est en dehors des contraintes sociales et où du coup on va pouvoir construire quelque chose à partir de soi-même, j'ai envie de dire, à partir de ses intérêts, de ses goûts personnels. Et cette perspective peut s'appuyer aussi sur d'autres analyses, donc de Norbert Elias et Durning, qui pensent d'une certaine façon que cette dimension de loisir, ce loisir est quelque chose qui est socialement nécessaire, j'ai envie de dire, du fait des multiples tensions que notre société nous impose à chacun ou impose à tous les groupes en permanence, hein, et que d'une certaine façon, le loisir serait la soupape qui permet de souffler, de laisser reposer les tensions pour mieux les supporter après. Donc en l'occurrence, là, quelque part, si vous voulez, cette idée serait reprise en disant il y a des tensions éducatives qui sont imposées aux enfants, hein, en permanence, à l'école, hors école, dans la famille, et on pourrait créer une espèce de bulle, ce que j'ai appelé un vide, hein, dans lequel eh bien, on n'aurait plus, on aurait une possibilité de soupape. Donc, c'est conceptions du loisir permettent en fait d'accepter que certains temps de vie de l'enfant soient pensés sur le même modèle, avec les mêmes ressorts que les temps de loisir des adultes. Hein, donc vos temps de loisir, d'une certaine façon, nos temps de loisir, qui d'une certaine façon ne comportent pas d'objectifs d'apprentissage ou d'acquisition, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un temps, une activité loisir, quelqu'un n'a pas pour vous des objectifs d'apprentissage. Vous n'avez pas, même pas forcément des intentions de progression, de développement. Hein, quand vous allez faire une balade en forêt, je ne vois pas bien où est la progression, où est le développement. Et dans tous les cas, s'il y a éventuellement des apprentissages ou s'il y a éventuellement des progressions, on va voir après qu'il s'agit en fait d'apprentissage ou de progression qui vont naître de cette activité, hein, qui vont émerger de l'activité et non pas qui vont être, on va dire, imposés de l'extérieur. On va y revenir plus tard, peut-être que ça va s'éclairer, puisque là, il me semble que ce n'est pas très clair. Donc, la proposition, elle est un peu en rupture dans ce sens qu'il s'agit de dire que le loisir va prendre la place de l'éducation, hein, clairement. Et donc, le vide, en fait, qu'on a créé, on va le remplir par l'activité de loisir elle-même et avec ce qu'elle propose, ce qu'elle a comme intérêt pour celui qui la pratique. Donc, en l'occurrence, aussi pour l'enfant. Hein. Donc là, j'ai mis un certain nombre d'intérêts qui sont assez classiquement développés sur ces recherches quand on pose la question de ce que c'est que le loisir. Alors, pas ce que c'est que le loisir pour les enfants, hein, puisque vous n'avez pas de recherche sur la question du loisir des enfants. Donc, il faut aller chercher les recherches sur qu'est-ce que c'est que le loisir des adultes pour penser qu'est-ce que c'est que le loisir des enfants. Ça, c'est intéressant déjà comme remarque. Hein. Donc on retrouve les questions de délassement et de repos, donc on voit que la question éducative elle est loin, joie, amusement, divertissement, pareil. Très important aussi les notions de partage, d'échange, de relations sociales que vont permettre ces temps, ces activités loisirs, mais aussi, il faut insister là-dessus, sur le fait que ces dimensions de loisirs, ces temps et ces activités loisirs sont aussi des endroits où il peut y avoir des challenges, des efforts, des performances hein, qui vont être pensées par les individus. Ce qui est fondamental, c'est que toutes ces dimensions, si vous voulez, elles vont être propres à chaque individu et propres à sa situation, ses expériences, ses goûts, ses envies. Donc, elles ne seront pas, contrairement à ce qui se passe en général dans les loisirs qu'on propose aux enfants, des intérêts qui vont être imposés de l'extérieur et contrôlés par les adultes. C'est pas l'adulte qui va dire « Mais regarde, ça va être intéressant pour toi parce que ça va t'apporter ça, ou parce que tu vas comprendre ça, ou parce que tu vas pouvoir développer telle capacité, telle compétence, ou parce que tu vas pouvoir partager ça avec tes copains ou avec tes copines. » Donc, ça conduit à penser des accueils, non plus en fonction des besoins éducatifs. Donc, la notion de besoin éducatif est une notion clé qui conditionne beaucoup les accueils tels qu'ils sont pensés aujourd'hui. Donc, on oublie cette notion de besoins éducatifs qui sont en général projetés par les adultes. Qui dit quels sont les besoins éducatifs ? Ce n'est pas les enfants, c'est bien les adultes. Mais on va penser, en fait, ces accueils à partir des goûts, des envies. Le terme envie, moi, me plaît beaucoup. Il n'est pas très sociologique, mais ce n'est pas grave. Et des satisfactions, on pourrait dire, qui vont être exprimées par les enfants. Ce modèle-là, si vous voulez, n'est pas celui que je vous développerai le plus aujourd'hui, parce qu'il est un petit peu, peut-être à la marge de ce qu'on pose en termes de continuité et discontinuité. Donc la deuxième proposition serait de penser la discontinuité en réfléchissant à une modulation, on va dire, autour de la question d'éducation. Et plus précisément, d'essayer de se passer de ce qu'on pourrait appeler des intentions éducatives qui sont celles des adultes à une dimension éducative qui serait celle des situations. Et là, ça change déjà les choses, puisque vous voyez que dans un cas, il y a un meneur, l'adulte, et dans l'autre cas, il y a un contexte, hein, une situation. Cette proposition, elle peut être appuyée sur l'intérêt qu'on peut porter à ce que plusieurs auteurs, dont des collègues du laboratoire, appellent les apprentissages de la vie quotidienne. Donc, apprentissage de la vie quotidienne, pourquoi ? Parce que ce sont des apprentissages qui se développent dans les coulisses, autrement dit dans les interstices, on pourrait dire aussi, hein, de la vie ordinaire. Donc j'ai mis les transports en commun, j'ai mis le travail, j'ai mis une activité de réparation d'un vélo, vous allez voir pourquoi après, des activités de bénévolat, mais aussi dans des temps de loisirs. Alors, petite précision peut-être, Cette réflexion et ces analyses sur les apprentissages de la vie quotidienne, telles que je vous les présente là et telles qu'elles sont pensées par les auteurs, ne concernent pas les enfants. Là, pour le moment, le discours, il concerne l'ensemble des individus, donc les adultes, mais aussi les enfants. Donc, ce que je vous propose là n'est pas spécifique aux enfants. C'est pour ça que les exemples sont plutôt tirés, justement, de la vie adulte que de la vie enfant. Donc, ces apprentissages peuvent se développer dans des situations diverses ou des lieux divers, puisqu'on peut avoir des apprentissages sur la plage, mais aussi en voyage, mais aussi dans une situation de travail au bureau, mais aussi dans la cour de récréation, peut-être qu'on y reviendra. Elles peuvent se dérouler dans des contextes sociaux différents, ça peut être la famille, ça peut être les collègues de travail, ça peut être les pairs, dans l'école ou dans le loisir. Et ça peut être aussi des apprentissages qui vont se développer dans des interactions entre des individus, entre l'ensemble des individus, on va dire. Donc ça peut être entre adultes, ça peut être entre jeunes et vieux, ça peut être entre enfants et adultes, et ça peut être entre enfants. Donc on voit petit à petit que je glisse là des choses sur lesquelles on pourra revenir après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer de l'informel dans l'éducation ? Ça veut dire de reconnaître qu'il existe, qu'on peut trouver les traces, donc les recherches le montrent, hein, de ce qu'on appelle des apprentissages incidents, donc des apprentissages qui vont se développer incidemment, pour le dire autrement, hein, c'est-à-dire incidemment à l'occasion de, sans qu'on cherche à les développer, et qui, du coup, ce sont des apprentissages qui sont inhérents, qui tiennent, qui sont inclus, si vous voulez, d'une certaine façon, dans une situation X ou Y. Et c'est cette situation informelle, c'est cette situation qui va devenir le lieu d'un apprentissage. Donc, petite précision de langage, il ne s'agit pas d'apprentissage informel. Les apprentissages, ils ne sont pas informels. Que vous les fassiez à l'école ou en discutant avec quelqu'un, ce sont les mêmes apprentissages. Ce qui est informel, c'est la situation dans laquelle on va apprendre. Donc, il faut pas, faut faire attention à cette petite nuance qui peut... si vous voulez parler d'apprentissage informel, pourrait avoir tendance à dévaloriser ces apprentissages. En l'occurrence, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, ce sont des apprentissages qui vont se développer sans qu'il y ait intention d'apprendre. Donc, j'ai essayé à chaque fois de vous mettre un petit exemple. Exemple, quand on va comprendre un mécanisme vraiment physique, hein, je sais pas, un système d'engrenage, par exemple, en bricolant son vélo, parce que en fait, il est cassé, il faut le réparer, ou tout simplement parce qu'on a une espèce de plaisir de la bricole, ce que j'ai envie de dire, hein, pour un jeune, et voilà. Donc là, on va potentiellement avoir des compréhensions de mécanismes qui vont se développer alors même que la situation ne cherche pas à apprendre quelque chose. Ce sont des apprentissages qui ne vont pas nécessiter de ce qu'on appelle de mise en forme éducative de la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de modifier la situation pour qu'elle soit le lieu d'apprentissage. On n'a pas besoin de transformer le bricolage en un atelier de bricolage, un cours de bricolage, un club de bricolage, donc dans quelque chose qui commence à instituer, hein, pour qu'il y ait un apprentissage. Cet apprentissage, il va se développer au moment où je fais mon bricolage toute seule dans mon coin, sans avoir besoin de personne. Par contre, il peut y avoir des intentions d'apprendre, des mises en forme de l'apprentissage, donc une espèce d'organisation de l'apprentissage, si vous voulez, mais ça va venir de l'individu et de la situation. Donc là, je vous ai inventé un truc. Hein. Montre-moi comment ça marche. Qu'est-ce que tu fais ? Apprends-moi, d'une certaine façon. Et là, on voit bien comment l'individu, l'enfant, peu importe, hein, ça peut être un adulte, là, en l'occurrence, va de lui-même, effectivement, essayer de trouver une mise en forme pour aller plus loin, peut-être, ou plus vite, ou que ça soit plus efficace dans ce qu'il cherche à comprendre, à trouver comme réponse aux questions qu'il se pose. Hein. Donc il peut y avoir des mises en forme, il peut y avoir des intentions d'apprendre. Quand vous allez prendre un adulte va prendre un cours de guitare, il y a quand même une petite intention d'apprendre, il va y avoir une mise en forme. Mais il est lui-même dans cette dynamique d'apprendre et c'est lui qui crée cette dynamique d'apprendre. Pourquoi cette notion d'apprentissage dans la vie quotidienne est importante ? Parce qu'en fait, elle va permettre de penser et de valoriser ce qu'on pourrait appeler une éducation informelle. Autrement dit, une façon de penser les accueils, les pratiques, les structures où les enfants sont accueillis, de façon à ce qu'il y ait une dimension éducative, je reviens sur ma notion de dimension éducative, hein, de la situation, de la structure, donc quelque chose qui est, on dit intrinsèque, c'est-à-dire attaché à la façon de faire, et donc de faire en sorte que ça, cette dimension éducative, prenne le pas sur ce qu'on a et ce qui traverse toutes les structures en général, ce qu'on appelle des objectifs éducatifs, des finalités éducatives. La notion d'objectif éducatif, vous la retrouvez dans tous les PEDT, vous la retrouvez dans tous les projets éducatifs, quelles que soient les structures dans lesquelles vous allez. Et la notion de finalité, si vous voulez, éducative, d'éducation, le problème, c'est qu'elle est ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est des professionnels, des adultes qui déterminent quelles sont les finalités, les objectifs éducatifs de leur point de vue, en général. Alors, là aussi, on peut s'appuyer sur d'autres analyses, puisque d'une certaine façon, penser l'éducation informelle, ça va être, dans les faits, concrètement, se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler l'éducation familiale. Donc, des formes d'éducation qui sont développées dans les familles, en l'occurrence, souvent par les parents, les grands-parents éventuellement, le reste de la famille éventuellement, les frères et sœurs qui vont intervenir là-dedans. Et donc, qui peut se caractériser par quoi ? Eh bien, qu'est-ce qui fait que l'éducation familiale, entre guillemets, fonctionne de façon informelle ? C'est d'abord parce que l'éducation familiale, c'est un contexte, un environnement qui va être pensé, aménagé, organisé, si vous voulez, pour laisser de l'autonomie à l'enfant, en l'occurrence. Donc, là, exemple de cette organisation du contexte, c'est le fait qu'on va réfléchir, essayer d'aménager un espace pour l'enfant au sein du foyer, donc une chambre. Ce n'est pas dans tous les foyers, effectivement, mais quand s'il n'y en a pas, on sait que ce n'est pas facile, que ça pose des problèmes. Donc on aménage une chambre pour les enfants qui va devenir la chambre de l'enfant. Et on voit comment on va l'autoriser à s'approprier cet espace. Donc on va le mettre dans une position active et non plus passive. Et on remarque que cet espace va en particulier être enrichi par des objets, des supports, en l'occurrence beaucoup de jeux et de jouets, mais pas uniquement des jeux et jouets. Vous allez avoir des ouvrages de littérature de jeunesse, vous allez avoir des tableaux au mur qui sont des reproductions d'un peintre, vous allez avoir, etc., etc. Autre élément qui caractérise cette éducation familiale, c'est la posture des adultes qui va être d'abord dans une présence, une attention, j'ai envie de dire une sécurisation par les adultes, j'aurais dû rajouter un par là, qui vont chercher à assurer, on va dire, le contexte de bien-être et de sécurité des enfants, mais sans forcément prendre la main sur ces activités des enfants. Donc on est dans l'idée qu'il faut créer des conditions favorables de vie pour ces enfants, mais sans complètement construire ce qu'on leur propose, à la différence de ce qui peut se passer dans des accueils de loisirs en général, où on est tout le temps dans la proposition. Si vous réfléchissez à comment s'organise votre propre famille, j'imagine, mais ou celle que vous fréquentez, il y a quand même dans ce qui est proposé aux enfants dans la famille, des temps, des espaces, des façons de faire qui sont très ouvertes et qui ne sont pas tout le temps sous le contrôle et sous l'autorité de l'adulte. Donc là, j'ai pris un exemple qui pourra être discuté, bien évidemment, mais quand il est question des sorties à l'extérieur, alors quand je dis sorties à l'extérieur, on pense aux sorties des ados en boîte, etc. C'est pas de ça dont il est question là. Ce que je voulais juste évoquer, c'est vous vivez dans un pavillon ou dans une zone pavillonnaire ou dans un immeuble, et la question c'est est-ce que je peux aller jouer dehors, en fait, c'est un peu ça. Ou est-ce que je peux aller retrouver tel copain, ou est-ce que je peux aller chez telle copine. En l'occurrence, là, il va y avoir effectivement une vraie attention des parents qu'on peut mettre sous le terme de surveillance, si vous voulez. Mais le terme de surveillance, il est pas forcément toujours très positif. Hein. Il ne montre pas forcément les ouvertures, mais plutôt les limites. Donc, je préfère plutôt sécurisation que surveillance. Mais on va être dans une... Donc, on va essayer de créer des conditions pour que l'enfant puisse naviguer, on va dire, entre l'intérieur, l'extérieur, les copains, la famille, etc. Et cette position des adultes, elle va aussi se décliner plus ou moins facilement. Hein. C'est peut-être sur ce dernier plan-là que les savoir-faire des parents sont plus hétérogènes, on pourrait dire, par une position d'accompagnement, de guidage, en fait, des enfants sans être dans de la contrainte ou sans être dans de l'obligation ou dans tous les cas en essayant de minimiser ces questions de contrainte et d'obligation. Donc là aussi l'exemple peut être très discuté en fonction des pratiques familiales, mais sur les choix des activités justement extrascolaires, hein, on peut voir comment on peut arriver dans des pratiques familiales à essayer d'accompagner l'enfant dans ce choix, dans cette détermination de ce qu'il a envie de faire, et je reprends mon terme d'envie, plutôt que d'être dans un dispositif où on impose à l'enfant de faire du piano, on va dire, hein, par exemple. Donc là, voilà, c'est, si vous voulez, dans cette forme-là, l'idée, c'est que cette façon d'éduquer les enfants au sein même des familles est porteuse de multiples ressources sur cette question de l'informel. Hein. La famille est essentiellement dans l'informel. Et donc, peut-être qu'en s'inspirant de ce modèle familial, on peut prendre de la distance par rapport au modèle scolaire. Et là, je suis encore un peu provocatrice parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, contrairement à un discours assez répandu qui est de dire que les familles ne tiennent pas la route par rapport à l'école, j'ai un peu envie de dire que c'est l'école qui ne tient pas la route par rapport aux familles. Là. Donc, je suis un peu provocatrice une fois de plus. Donc, l'éducation informelle pour accueillir pour des accueils différents, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand on observe un peu les pratiques, il y a effectivement, dans les pratiques hors scolaires, ce que j'appelle des îlots de résistance. Donc, tout à l'heure, j'ai mis tout le monde dans le même panier, mais bien évidemment que c'est très divers et très varié et que donc on peut trouver des accueils qui vont plutôt dans cette direction d'une éducation informelle. Ça va se traduire comment ? Ça va se traduire en général dans ces centres de loisirs ou dans ces colos, pour parler de choses concrètes, hein, par un intérêt vraiment fort porté à l'espace et à l'aménagement de l'espace et à l'enrichissement de l'espace par des supports matériels. Donc là aussi, on peut reprendre les jeux, on peut reprendre les livres, on peut reprendre le matériel de bricolage, on peut reprendre un espace et du matériel théâtral, on peut reprendre un espace et du matériel cirque. Enfin, vous pouvez avoir la palette que vous voulez, hein, l'espace sportif, qui ne sera pas forcément déterminé. Et donc, l'idée, c'est d'enrichir le contexte, si vous voulez, auquel les enfants vont pouvoir avoir accès. Ça ne fonctionne bien évidemment que si cet espace et ce matériel mis à disposition va fonctionner sur le principe de la décision ou de la liberté, on pourrait dire, des enfants. Hein, autrement dit, si l'activité qu'il va développer, la pratique qu'il va développer, va bien être construite, élaborée à partir de ses propres envies, de ses propres goûts et de son propre, alors on peut reprendre le terme de cheminement, on peut aussi dire de ses propres lui objectifs, parce que lui il en a éventuellement des objectifs, hein. Il peut très bien avoir comme objectif de faire un spectacle pour ses copains à la fin de la colo ou à la fin de la journée, donc des objectifs il peut en avoir, mais il ne va pas les penser en termes d'éducation, hein, contrairement aux adultes. Ça fonctionne aussi parce que l'adulte va être dans une position, comme le parent, on va dire, au sein de la famille, dans une position de garant, on va dire, de ce fonctionnement libre. En particulier, garant, j'ai envie de dire, que chacun y trouve son compte. Hein? Et donc, d'une forme de respect des autres et du contexte, parce qu'il n'est pas question, bien évidemment, que... la phrase clé, hein, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. C'est un des principes qui doit être respecté pour que ça fonctionne dans ces espaces-là. Et enfin, là aussi, on retrouve la posture des parents. L'idée, c'est que ça passe par une posture, on va dire, d'encadrement, d'accompagnement, ce que un psychologue qui a travaillé sur le jeu appelait d'étayage, hein, c'est-à-dire de mettre des poteaux qui soutiennent, voilà, ce que les enfants veulent faire. Et donc, ça veut dire quoi en tant qu'adulte ? Eh bien, ça veut dire éventuellement de participer tout bêtement à ce que les enfants sont en train de faire, ou, à un autre extrême, d'être là en, on va dire, support technique, hein, de pouvoir apporter le petit outil ou le petit détail que l'enfant ne sait pas faire ou ne peut pas faire parce qu'il est trop petit pour grimper sur le tabouret et accrocher ce qu'il veut au plafond. Donc il faut 10 cm de plus et l'adulte l'a et l'enfant l'a pas. Donc voilà, on est dans une idée de vraiment appuyer et venir en soutien des activités et des pratiques des enfants. Il faut que je me dépêche un tout petit peu. Peut-être que je vais finir par celle-là. Donc, pourquoi cette éducation informelle paraît pertinente ? Eh bien, c'est essentiellement parce qu'elle va enrichir les interactions et elle va permettre de repenser aussi la place des acteurs. Donc, première entrée, la question des interactions enfant-adulte, qui va devenir beaucoup plus ouverte, moins fermée, si vous voulez, moins bloquée dans cette position de socialisation verticale, hein, et en particulier socialisation verticale descendante. Donc, l'idée, ça serait de sortir de cette posture dominée-dominant, en s'appuyant sur cette fameuse notion d'agency des enfants, c'est-à-dire cette idée que les enfants ont des capacités d'agir, j'ai envie de dire équivalentes, hein, ou à même niveau, d'une certaine façon, que les adultes, ce qui permet, d'une certaine façon, de positionner l'adulte en situation de participer à ce que l'enfant initie lui-même. Hein. Donc, ça rejoint le second point que je vous propose, c'est-à-dire cette idée d'avoir une communauté de pratiques enfant-adulte, dans lequel on va faire se rencontrer des expériences, avec effectivement sans doute des expériences et des expertises, on pourrait dire, qui sont différentes, souvent plus d'expertise du côté de l'adulte que du côté de l'enfant, mais pas toujours. Il y a des tas de domaines en particulier, alors c'est plus vrai aujourd'hui, mais il y a 20 ans, la question du jeu vidéo, l'expertise, elle était clairement du côté des enfants et pas du côté des adultes, par exemple, pour vous donner juste un exemple. Donc, des expertises différentes, mais qui sont pensées, si vous voulez, comme complémentaires et pas du tout hiérarchisées entre enfants et adultes. Il n'y a pas l'adulte expert et l'enfant ignare, j'ai envie de dire. Hein. Cette notion d'éducation informelle va permettre aussi de renforcer ces interactions entre enfants, de revaloriser ces interactions entre enfants, puisque je pense que vous avez largement entendu parler de ces questions-là dans cette université. En fait, il y a clairement des capacités, des expertises enfants qu'on peut mettre en lumière et qu'on peut mettre en avant pour justifier, d'une certaine façon, la mise en retrait des adultes. Donc là, dans cette situation du entre-enfants, il ne s'agit plus que l'enfant soit aidé, accompagné par l'adulte, mais il s'agit bien de valoriser ce que les enfants, entre eux, vont pouvoir développer dans des pratiques totalement autonomes. Donc là, si j'avais le temps, je vous parlerais d'une expérience qui s'appelle la boîte à jouer, dans laquelle, effectivement, on voit bien comment, quand on met un espace et du matériel à disposition des enfants, ils n'ont pas besoin d'adultes. Quasiment pas. Hein. Ils arrivent très bien à se débrouiller tout seuls. Et j'avais un dernier slide, mais peut-être quand je vais vous le laisser lire. Donc l'idée, c'est que peut-être que penser la discontinuité peut permettre de favoriser d'autres expériences de vie, hein, avec une modalité où, en fait, les enfants peut-être redeviennent des enfants et surtout, peut-être on fait la différence importante entre être enfant et être élève, en laissant l'élève à l'école, j'ai envie de dire. On ferme la porte de l'école et quand on a fermé la porte de l'école, hop, on n'est plus un élève. Ce qui n'est pas le cas dans la grosse majorité des structures qui accueillent les enfants aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.